qu'il y a de la pensée magique dans les comportements modernes? C'est là où on pourrait se dire, ça c'est tout ça, c'est un peu vieux, Paracels, ok, d'accord, maintenant on est en 2017, est-ce qu'il y a de la pensée magique, des comportements modernes? En fait, il suffit de se pencher sur le travail des publicitaires pour se rendre compte à quel point la publicité fonctionne sur des bases de pensée magique. Alors je vous ai amené quelques exemples que j'aime bien, par exemple, bon, la pub Magnum ici, pour des glaces, quoi, dont je n'ai pas de lien d'intérêt avec Magnum, hein, ni avec aucune des pubs qu'on va voir, mais... Peut-être certains parmi vous qui ont l'esprit très pur voient une contrebasse ou un violoncelle, mais il suffit de regarder la gamme de qui a été développée par Magnum pour se rendre compte que ce n'est pas des instruments de musique. Quoi. Voilà. Et donc, quand vous consommez une glace, enfin, je ne sais pas, tout le monde voit, ou je suis le seul pervers. Normalement, je ne suis pas le seul pervers, parce que si ça marche, elles sont testées. Les pubs que vous allez voir là, ce sont des pubs qui gagnent, c'est-à-dire qu'elles sont testées parmi plein d'autres, et si elles fonctionnent, alors ils les mettent sur le marché. Quoi. Celle-ci aussi. Un peu plus technique. Alors, si c'est pas clair pour vous, venez me voir à la fin, je vous ferai un petit dessin. Voilà. Comment comprendre autrement que par le schème de pensée magique cette pub pour Moët et Chandon? Il n'y a pas d'autre grille d'interprétation possible, quoi. Et c'est des grilles d'interprétation qui font appel à ce qu'on a d'un peu primitif en nous, quoi. Ça a le don un peu de m'énerver. Déjà, ça m'énerve parce que le corps des femmes, et d'ailleurs celui des hommes commence à l'être aussi, mais sont très stylisés, très filiformes, classiques. Donc ça impose des normes, c'est très chiant. Puis en plus, ça donne l'impression que les gens qui vont consommer du Moët et Chandon, en fait, leur seul fantasme dans la vie, c'est de posséder des femmes. Voilà. Bilan, moi, je bois plus de Moët et Chandon. Voilà. Bien fait pour eux. Alors là, c'est un peu plus clair que Moët, c'est un peu moins raffiné que Moët et Chandon. Ce n'est pas les mêmes gens qui boivent... Shaker, Cult Shaker, et voilà, et si on n'avait pas compris, il y a la deuxième partie, voilà. Celle-ci qui est plutôt élégante, voilà, ça c'est pour les quinquagénaires, je sais pas, pour Volvo, quoi, là, on vous dit, nous sommes aussi excités que vous. Ouais. Et je tiens à dire que, alors il n'y a pas que les garçons qui ont des corps érectiles, hein, je pense que ça, vous le savez, hein, mais je pense que ça s'adresse à des garçons, parce que quand même avoir un clitoris en érection aussi gros, c'est peu probable, sauf chez les hyènes, enfin bref, peu importe. Et donc, mais alors vous êtes censés, vous les hommes a priori, là, voilà, censés être excités à l'idée de posséder une Volvo, eux ils sont excités à l'idée de posséder votre pognon, donc vous pouvez les punir en n'achetant pas de Volvo. Enfin moi je trouve que quand on nous fait des pubs comme ça, il faut renoncer. Il y avait déjà plein de raisons de renoncer aux saucisses mortaux, mais en voilà une de plus. Perrier, non mais ils ont, vraiment, c'est nous prendre pour des demeurés, quoi. J'ai même emmené une pub, un clip, mais ça prendrait du temps. Je vous le mettrai en lien, vous irez voir, ça sera un goodie que je vous mettrai sur le site, mais c'est vraiment navrant, quoi. Mais ça veut dire quelque chose d'important sur nous, c'est-à-dire que ça marche, en fait. Ça marche sur nous, ça marche sur un cerveau humain. Le schème de pensée magique de similarité fonctionne. C'est terrible. Et il y a certaines thérapies dans lesquelles ce schème est vraiment très, très marqué. Alors, je vous ai apporté quelques exemples. Théorie qui est née... Alors, ce n'est pas Fitzgerald le premier qui a posé des bases de ça, mais c'est le premier qui a écrit là-dessus. Voilà, sur un livre qui s'appelle Zone Thérapie. C'est ce qu'on appelle la gamme des réflexologies. Là, vous avez des réflexologies dites plantaires, où l'idée dans cette réflexologie, c'est de se dire la voûte plantaire ressemble un peu à un torse humain, et donc, par pensée magique, on associe très, très facilement des zones avec des organes, et donc, en stimulant certaines des zones du pied, on pourrait obtenir des résultats thérapeutiques intéressants. Moi, je me suis soigné comme ça, souvent, hein, quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'ai arrêté, mais vous ferez bien ce que vous voulez, hein, ça ne me regarde pas. Mais je me suis rendu compte bien tard que quand on prend une collection de 40 cartes différentes, il n'y en a pas deux qui se recoupent. Il n'y en a pas deux qui montent les mêmes zones. Les intestins ne sont pas au même endroit. Alors on se dit, mais déjà, est-ce qu'ils ont prouvé qu'il y a un effet de telle zone sur l'organe en question? La réponse est non. Qui a posé la première carte? C'est pas clair. Et après, est-ce qu'il y a une carte plus juste que l'autre? C'est encore pas clair non plus. Ça, ce sont des signes que la théorie est plutôt mal barrée, comme on dit. Voilà. Plutôt mal barré. Récemment, sur la réflexologie plantaire, il y a un élu, il y a 4 ans ou 5 ans, qui s'est fait épingler parce qu'il faisait de la réflexologie plantaire contre le gré de ses stagiaires. Non, un député, vous chercherez en France une petite affaire comme ça, un peu sordide. La réflexologie palmaire, c'est la même chose, mais c'est sur les mains. Et ça, c'est une dame qui s'appelle Stopfel qui avait développé ça. Pareil, aucun corpus scientifique à l'appui. Par contre, donc j'en profite pour vous le dire, un des critères pour déceler si vous avez affaire à une thérapie qui tient un peu la route ou pas, c'est de regarder est-ce qu'il y a un corpus de preuves. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de corpus de preuves, mais que l'argument principal, c'est l'agglomérat de témoignages, qu'on a remplacé les preuves par les témoignages, vu que vous connaissez maintenant à quel point les témoignages peuvent être faillibles, eh ben, vous pouvez conclure qu'on est en absence de preuves. L'auriculothérapie, un peu plus récente, un peu plus française, l'idée c'est que dans l'oreille et dans son pavillon, vous avez la forme de l'embryon que vous fûtes dans un temps primitif. Et que, alors d'ailleurs, ça pose plein de problèmes. On se dit, mais ah ouais, donc on est vachement maigre en fait. Donc alors oui, mais il faut mettre les organes dehors. Alors il y a plein d'histoires comme ça. Donc bref, ils ont bricolé un petit peu. Et puis normalement, si on vous pique l'oreille, enfin, il n'y a pas que piquer avec des aiguilles. Vous pouvez être stimulé par de la moxibustion, des cigares d'armoise. Vous pouvez être stimulé par les doigts. Il y a plein de méthodes quoi. Vous auriez un intérêt thérapeutique intéressant. Ce n'est malheureusement pas le cas. Vous avez une variante qui s'appelle l'iridologie. En fonction des taches que vous auriez dans l'iris, on pourrait déceler de quelle maladie vous pouvez souffrir. Vous allez souffrir ou vous souffrez réellement. Quoi. Et malheureusement, ça ne marche pas non plus. Il y a une histoire, je ne vous la raconte pas parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Certains disent que Von Pacelli, il a eu la révélation. Très souvent, ces techniques-là sont des révélations. C'est-à-dire qu'il y a une illumination. Je suis en train de faire un papier là-dessus. J'ai recensé une vingtaine de thérapies qui sont des épiphanies, c'est-à-dire des moments où il y a et la personne elle fait ça y est, j'ai trouvé la thérapie. C'est juste ça quoi. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'empirisme, il n'y a rien. C'est une révélation. Quoi. Et Von Pacelli, l'histoire même paraît foireuse parce qu'elle est racontée bien tard et le monsieur qui était un comte aurait ramassé un jour une chouette et elle avait la patte cassée ou alors il l'aurait cassée lui-même sans le faire exprès, ben on ne sait pas trop. Et il a constaté qu'elle avait en même temps une zébrure dans l'iris et il l'a soignée chez lui et quand elle était enfin guérie, il s'est rendu compte que la zébrure avait disparu. Alors il s'est dit « Ah, l'iris est donc le miroir de l'âme !» etc. Puis il est parti en cacahuète. Il a fait un bouquin de 1880 qui s'est bien vendu. Après, vous avez des variantes. Alors c'est là que j'avais voulu vous mettre une grosse connerie. Et en fait, c'est dur d'inventer des conneries, je vous jure, c'est vraiment difficile. Alors d'abord, il y a les résonances dentaires, c'est-à-dire associer les dents avec d'autres trucs, ça existe déjà, vous avez plein de cartes différentes. Là, je vous ai amené celle de Bill Wolf. Méfiez-vous du titre docteur, car il y a des gens qui délivrent dans certains pays des titres de docteur qui ne sont pas des titres de doctorat comme nous les entendons, nous. Parfois, il y a même des professions... je pense par exemple kinésiologie ou kinésiologie appliquée, qui sont des techniques qui ne fonctionnent pas, hein, mais où, en interne, dans leur groupe, ils se décernent des titres de docteur. Et il y a des pays ou des endroits où le titre n'est pas protégé. Donc je ne sais pas, peut-être Bill Wolf est docteur, je n'ai pas vérifié, mais vu ce qu'il défend, je suis assez étonné. N'empêche qu'il associe les dents à chaque fois à des organes, des vertèbres, des ligaments, des glandes endocriniennes. Et il dit que si vous avez une carie ici, alors votre glande pinéale va avoir des problèmes. Et probablement que vous aurez mal aux pieds. Enfin, voilà, ils font des associations comme ça. Corpus de preuves, zéro hein, là-dessus. Hein. C'est là où je voulais mettre ma bêtise. Je me suis dit, je vais leur mettre une réflexologie rectale ou intestinale. Donc ça, c'était ce matin. Et puis je me suis dit, attends, je vais vérifier quand même si ça n'existe pas déjà. Et en fait, ça existe déjà, je vous jure. Ça existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des cartes, notamment un type qui s'appelle... Walker et un mec qui s'appelle Bender, ils ont développé une carte réflexologie intestinale en fonction de la zone que vous stimulez dans l'intestin. Alors ne me demandez pas comment on stimule une zone dans l'intestin, ça peut être avec la main, ça porte des noms hein, tout ça, mais aussi avec de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau, faire des lavements, faire circuler, il y a plein de méthodes quoi. Il y a même une boîte qui vend des produits. Alors le liquide qui est dans le verre, c'est le liquide qui est censé faire la douche, c'est pas le produit de la douche, enfin c'est pas le produit du lavement, du clister, comme on disait dans l'ancien temps. Ne soyez pas écœurés par la couleur, c'est la couleur du produit. Je pense que le produit est comme ça pour qu'on ne voit pas que la couleur est la même après, mais pour d'autres raisons. Bref, et vous avez la sympathicothérapie qui existe aussi. Ah ben mes photos ont sauté, mais c'est pas grave. La sympathicothérapie, c'est une méthode qui a été développée qui consiste à essayer de stimuler des points, des sinus, ici. Et donc vous enfoncez un long stylet grand comme ça, j'ai essayé, c'est pas très agréable, comme ça, tac, et vous, en fonction des points, vous obtiendriez, soi-disant, un effet thérapeutique intéressant. Ce qui est rigolo dans cette technique-là, c'est que quelle qu'elle soit, à chaque fois l'argument c'est de dire mais c'est une technique ancestrale. Alors généralement c'est les Égyptiens qui font les frais. On leur dit ah mais c'est les Égyptiens qui l'ont fait, ou c'est un peuple lointain qui l'a fait. Mais c'est souvent les Égyptiens qui prennent cher avec ça. De toute façon, l'Égypte, c'était l'ancienne Égypte, c'est large. Là, par exemple, l'argument de l'ancienneté, qu'on appelle parfois dans notre jargon l'argument du vieux pot, parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Quoi. On dit, regardez, la réflexologie plantaire existe depuis très longtemps, parce que regardez sur le parchemin, qui en fait n'est même pas un parchemin, c'est un bas-relief qui a été recoloré, mais bon, peu importe. Eh ben, vous avez des gens qui font de la réflexologie. En fait, non, vous avez des gens qui se massent les pieds. Mais eux veulent y voir la réflexologie. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien du tout comme indication de fin thérapeutique dans ce document. De l'époque, quoi. Et quand vous regardez la naissance de ces techniques, vous vous rendez compte que c'est relativement récent. Et ça, c'était notre grande, grande découverte avec Pinceau, de se rendre compte que la plupart des techniques thérapeutiques manuelles, notamment kiné et approchantes, sont des techniques qui sont extrêmement récentes, quoi. Elles sont toutes du 19e, du 20e, presque toutes du fait de pasteurs ou d'évangéliques ou de gens qui ont un rapport avec Dieu et qui leur révèlent un jour la technique. Voilà. J'ai mis un point d'interrogation à Walker parce que j'ai pas pris le temps aujourd'hui de chercher s'il y avait des gens qui avaient développé ça avant lui. D'accord ? Donc j'ai mis Walker point d'interrogation. Norman R. Walker, je crois, c'est son nom, si vous cherchez. Mais peut-être que c'est plus vieux. Ça nous amène à la question de l'homéopathie. Alors, vous vous rappelez, dans ce cours, il ne s'agit pas de vous dire ce qu'il faut faire avec ces réflexologies, avec cette homéopathie, avec l'acupuncture, avec la kinésiologie. Moi, ça ne me regarde pas. Vous faites bien ce que vous voulez, si ça se trouve moi-même je pratique ça, ou vous aussi, et si vous continuez, grand bien vous fasse. Ce qui compte pour nous, dans ces enseignements-là, c'est de vous donner toute l'information disponible pour que vous puissiez faire des vrais choix, quoi. Pas que vous soyez tributaire de ce qui est présenté sur Internet, ou tributaire des entreprises qui portent ces produits, quoi, et qui vendent très très bien leur sujet. Donc je vous donne une information complète sur le sujet, enfin, complète dans le temps qu'on a, quoi, c'est-à-dire... mais transversale, on va dire. Et si vous avez des questions, je les prends après, j'essaierai d'y répondre. Et puis, on est en train de préparer un bouquin sur toute l'histoire de l'homéopathie, comment ça s'est construit, parce que les départs de l'homéopathie sont... c'était plutôt bien parti, si vous voulez. C'était plutôt pas mal parti. Je ne sais pas si vous savez quand ça date, l'homéopathie. Quelqu'un a une idée ? 1880, dit-il. C'est plus vieux que ça. Qui dit mieux ? C'est genre très, très très vieux, ou plutôt très très récent. Ouais. C'est l'orée 1800, c'est quand on arrive en 1800. Certains disent que l'homéopathie est née en 1796. Pensez à la Révolution française, pensez à la vaccination de Jenner et les autres, là, c'est cette période-là, quoi. Et c'est un monsieur qui s'appelle Hahnemann. Ah, c'est quelqu'un de très religieux, il est né en Saxe, il est allemand, il est piétiste, peu importe, c'est un groupe protestant bien particulier, plutôt rigoriste si vous voulez. Voilà. N'empêche que ce gars, il est médecin et il fait de la recherche. Il essaye de faire de la recherche. Alors, il a déjà envie, un peu comme Freud, il a déjà envie d'être un héros. Hein. Dès qu'il est jeune, il a déjà envie d'être quelqu'un qui va bouleverser le monde. Il a vraiment déjà une soif de capital symbolique, comme on dit, et il va tout faire pour l'acquérir. Et il n'empêche qu'il expérimente sur lui. Et je vous ai pris un extrait de l'Organum où il raconte ça. Il raconte comment, dans les années 1794-95, il faisait des tests sur lui-même en prenant des substances. Et je vous lis vite fait. Hein. Il dit « Je pris pendant plusieurs jours 13 grammes de quinquina chaque jour. Mes pieds et mes mains se refroidirent, je me sentais fatigué, somnolent. » Puis je commençais à avoir des palpitations, mon pouls devint dur et rapide. J'éprouvais une impression de malaise insupportable. Moi, j'aime bien les gens qui se mouillent vraiment, quoi, qui en bavent, quoi. Et au bout d'un moment, il dit c'est trop horrible et tout. Et puis, à chaque fois qu'il répétait la dose, ça réapparaissait. Et puis, quand il arrêtait, hop, il se sentait bien et voire même mieux qu'avant, quoi. Alors, c'est là qu'il a commencé à se dire tiens, c'est marrant, quand je prends quelque chose qui me crée des symptômes, c'est bizarre. J'ai déjà lu Paracels, De La Porta et tous ces gens-là, les Hildegard de Bingen de l'ancien temps, tous ces gens qui associaient le semblable guérit le semblable. Est-ce que peut-être que je pourrais peut-être me servir du fait qu'il y a des choses qui sont poison, qui sont pas bonnes, et peut-être que le mal pourrait combattre le mal, quoi. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il pose ça dans un essai qui ensuite a été repris 14 ans plus tard dans son gros livre qui s'appelle L'Organum ou Art de guérir, il s'appelle. Il dit « Le quinquina qui détruit la fièvre » provoque chez le sujet sain les apparences de la fièvre. Alors il dit, ben, c'est ça en fait le principe. Il faut prendre le mal, il faut prendre des choses qui sont néfastes et les appliquer sur des gens qui souffrent des mêmes symptômes et c'est le mal qui va, qui va niquer le mâle, quoi. Et alors, il développe une gamme de poisons. C'est comme ça qu'il dit. Il prend plein, plein, plein de poisons. Et là, il se rend compte qu'il y a un problème, quand même. Parce que les poisons, quand il les donne à ses patients, alors on ne sait pas s'il a tué des gens. Freud en a abîmé pas mal. Lui, je ne sais pas s'il en a abîmé. Mais n'empêche qu'il se rendait compte qu'ils étaient plus malades en sortant de chez lui qu'avant. Là, il s'est dit, il y a un problème. Mes poisons, ils sont trop rudes, quoi. Je ne peux pas leur donner n'importe quel poison. Alors là, il se dit, je vais les diluer. Et là, il bricole un peu dans sa tête. C'est là où ça commence un peu à être un peu bizarre. Il bricole, il se dit, je vais diluer ces produits parce que là, c'est trop fort, quoi. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose qui va rester dans ces produits quand même, qui sera le mal qui ira quand même soigner, mais sans qu'il y ait des effets négatifs. Et il voit bien quand même que c'est un peu comme le pastis, quoi. Plus vous diluez, moins il y a d'effets, quoi. Et donc, il faut bien ça. Alors, il dit, deuxième solution, et c'est encore un truc ad hoc, c'est-à-dire construit de toutes pièces. Il dit, je découvre que si je dynamise mon mélange, en gros que je le secoue, je vais retrouver tout ce qui était intéressant pour moi, qui avait disparu parce que j'avais dilué. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça la théorie. C'est comme ça la théorie. Et donc, il dynamise. Ce qui fait que l'homéopathie, qui maintenant est dans toutes nos pharmacies, enfin, les pharmacies n'osent plus ne pas vendre d'homéopathie de peur de passer pour des méchants. C'est assez marrant, ce système-là. Eh bien, elle repose sur trois principes, plus un qui est une sorte de semi-principe, quoi. Le principe dit des hautes dilutions, que je vais vous détailler un petit peu, le principe de pathogénésie et le principe de dynamisation, dont j'ai déjà un tout petit peu parlé, qu'on appelle parfois la succussion, parce qu'on secoue en fait. Et il y en a un autre qui s'appelle le principe d'individualisation, mais que beaucoup de gens oublient en cours de route, donc on ne sait pas trop s'il est central, il y a plusieurs écoles en homéopathie là-dessus. Le principe de dilution, c'est vraiment facile à comprendre, et c'est pour ça que si la théorie de cette mémoire... malgré la dilution, fonctionnait réellement, comme ça a été prétendu dans les années 80, alors vous êtes quasi assuré d'avoir 4 prix Nobel d'affilée, parce que c'est le bordel complet en physique, en maths, en bio, partout. Les sciences seraient complètement bouleversées par ça. Parce que ce qu'ils proposent dans cette théorie, c'est un protocole de dilution, qui est assez simple à comprendre. Quand vous, j'ai pas amené de granules là, mais sur une boîte de granules, vous avez marqué CH. Les CH, ça veut dire centésimale hahnemannienne, d'accord ? C'est des centésimales. C'est-à-dire qu'en gros, ce que fait Hahnemann, et ce que fait Boiron, par exemple, maintenant, c'est vous prenez une goutte du produit actif, du poison en question, vous le mettez dans un Erlenmeyer ou dans une fiole, si vous voulez, et vous complétez à 100. Vous rajoutez donc 99 gouttes du solvant que vous avez choisi. C'est généralement de l'eau. Hein. Et là, vous avez un mélange de 1 CH. Vous prenez une goutte de ce mélange-là, qui est donc déjà dilué à 100, et vous le mettez dans un deuxième pot, et vous recomplétez à 100. Et là, vous avez 2 CH. Puis vous faites encore, etc., etc. Ça va jusqu'à 30 CH pour le commun des achats que vous pouvez faire en pharmacie. Et donc vous comprenez que la dilution augmente très vite et que la règle elle est facile à décrire, elle est là, quoi. Et si vous avez des restes un peu de chimie de seconde, vous vous rappelez peut-être qu'il y a un nombre d'Avogadro et puis en fait arrive un moment où la quantité de dilution va faire que la probabilité que la molécule active de départ soit encore présente devient proche de zéro, quoi. On estime que c'est autour de CH10 qu'on peut considérer qu'il n'y a plus de chance d'avoir la molécule active de départ. Et dans la théorie homéopathique, il dit c'est pas grave, parce que si on dynamise derrière, si on mélange, si on secoue, on va retrouver le message, non plus la substance, parce qu'elle est diluée, mais le message de ce que cette substance a laissé dans l'eau. Ce qu'on a appelé la fameuse mémoire de l'eau. L'eau garderait en mémoire ce qui l'a traversé, quoi. Donc on fait un tableau des équivalences parfois pour que les gens se rendent un peu compte de ce que ça veut dire, ces systèmes de dilution. Et je vous ai mis ça, je vous laisse lire vite fait, puisqu'évidemment à chaque fois on passe à des dimensions 100, quoi. Donc ça signifie qu'il y aurait une circulation d'informations, bien qu'il n'y ait plus de porteur de cette information-là. Transfert d'informations sans matière, quoi. Et ça c'est prix Nobel 2018, quoi. On entend parfois plus c'est dilué, plus c'est fort. Ce qui est étonnant, mais c'est comme ça. En tout cas, on nous dit que le solvant garderait une trace, une mémoire du principe actif, même quand il n'y en a plus. Ça vous rappelle rien, ça? Ça vous rappelle pas un peu la pensée magique de... Non, vous relirez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça marque l'esprit. On se dit, vu que ça a traversé le solvant, il reste quelque chose, quoi. Un peu la mouche, quoi. C'est un peu mouchisé, quoi. Il reste un truc. Bon. Même si la chimie n'a jamais montré un truc du même genre. La pathogénésie, c'est le mot le plus compliqué du cours d'aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas très, très compliqué à comprendre. C'est l'ensemble des symptômes provoqués par une substance sur des personnes en bonne santé. On vous fait manger un truc horrible et vous devenez tout vert. Voilà, ça, c'est une pathogénésie, quoi. On vous fait manger un truc émétique, vous allez vomir partout, etc. Et donc, la phrase la plus compliquée, c'est celle-ci. Peut-être la phrase la plus compliquée de cet enseignement, c'est ça. Un principe actif étant capable, à dose importante et sur un sujet sain, de donner des symptômes, serait à dose infinitésimale capable d'éliminer ces mêmes symptômes chez un patient malade. Si vous avez compris ça, c'est le principe de base qu'a défendu Hahnemann. Exemple, si vous prenez la noix vomique que j'ai mis en photo là, c'est Nux vomica, c'est une noix qui j'ai jamais goûté, hein, mais il paraît que ça fout la gerbe, quoi. Si ce produit-là, la noix vomique, fait vomir un sujet qui n'est pas malade, genre toi ou moi, on n'est pas malade, il fera disparaître les vomissements chez lui qui est malade, qui vomit. Ah, t'es malade, tu vomis? Bah, vu que lui, ça le fait vomir quand il n'est pas malade, ben, alors ça marche presque comme ça, sauf qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas pareil. Et c'est là qu'arrive le dernier principe, qui est un principe dit d'individualisation. Normalement, on ne peut pas proposer à lui qui vomit et à lui qui vomit le même produit, parce que ça dépend de leur type. Donc vous pouvez avoir un type plutôt sulfure, plutôt ceci, plutôt cela. Et normalement, l'art de l'homéopathe, c'est d'essayer de trouver de quel type vous dépendez, parce qu'un bon médicament pour moi ne sera peut-être pas forcément un bon médicament pour vous, avec la même pathologie donnée, quoi. Après, vous avez le latin. Le fait que Nux vomica, par exemple, c'est marqué en latin. Alors, c'est là que moi, quand je bossais sur ce sujet, les premières fois, je pensais que l'homéopathie, c'était des plantes, quoi. C'était une sorte de phytothérapie, si vous voulez. C'était une sorte d'agglomérat de plantes. Et à ma grande surprise, non. Loin de là. En fait, des plantes, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Il a vraiment pris des poisons, quoi. Et donc, il a pris des trucs, mais assez stupéfiants, quoi. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Mes préférés sont les 5 derniers, quand même. Mon préféré, c'est lui. Du pu érétral de blénorragie. Parce que j'imagine, je sais pas, Hahnemann ou un de ses descendants qui va en chercher, déjà. Il en prend une petite coupelle. Et en fait, en réfléchissant, on se rend compte que bah, il suffit d'un petit peu de pus et vous avez de quoi faire 100 ans de granules, quoi, vu les dilutions, quoi. De toute façon, le rejet, le dégoût que vous pourriez avoir en lisant crachat de coqueluche, par exemple, sera fortement atténué par la dilution. Vous voyez, il ne restera plus qu'une sorte de pensée magique. Vous dites, ah, c'est dégueu, c'est du crachat de coqueluche. Ouais, mais en fait, il n'en reste plus dedans, donc c'est pas très grave, quoi. N'empêche, ça a été retiré du marché pour des raisons assez floues, hein. Le principe de pathogénésie pose pas mal de problèmes, en fait. Je suis obligé de maintenant rentrer dans le détail de pourquoi ça pose des problèmes. Je vous donne quelques petits points comme ça. Problème 1, les remèdes actuels prescrits en homéopathie sont différents de ceux qui ont été faits au départ pour poser des pathogénésies. Si vous voulez, en fait, les produits utilisés sont plus les mêmes que ceux de départ auxquels on avait associé chacun des gammes de symptômes, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait tout refaire. Et bizarrement, ils ne sont pas très empressés de le refaire. Ce qui nous reboute avec un point qu'on a déjà vu, quand une théorie a tendance à stagner et à ne pas bouger, c'est assez mauvais signe, parce qu'en science, il y a beaucoup de gens qui travaillent tout autour, généralement, d'une théorie. Et il y a souvent des contre-arguments, et on vient enlever ce morceau, on rajoute un bout, etc. Le côté dynamique d'une théorie est plutôt un bon signe de scientificité. Le côté stagnant d'une théorie est plutôt mauvais signe, quoi. Donc là, c'est plutôt stagnant. Le deuxième problème, qui est le problème fondamental, s'il n'y en a qu'un seul à retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a tendance à travailler sur des symptômes qui sont peu fiables, c'est-à-dire peu caractérisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Si vous prenez, par exemple, quelqu'un qui... C'est un peu comme quand je vous ai parlé des élixirs floraux de Bach. On vous dit, ah mais on essaie de guérir votre tendance pleurnicharde. Comment on fait pour savoir si après, vous êtes moins pleurnichard qu'avant? Il faudrait une grille de pleurnichardise, quoi. Ça n'existe pas pour l'instant. C'est trop flou. Trouble survenant après de la peur, de la jalousie, de la fureur, une vexation, une mauvaise nouvelle. On ne peut pas faire grand-chose avec ça, si vous voulez. Il faut des choses qui soient objectivables. Parce que si on accepte les symptômes non fiables, on peut arriver à des prétentions absolument stupéfiantes. Le meilleur exemple que je connaisse, chaque fois je me dis je vais en trouver un meilleur, mais non, en fait, vraiment, il bat tous les records, c'est ce monsieur-là qui a monté un site, j'ai la page ouverte en dessous, là, mais je ne me suis pas connecté, mais elle pourrait apparaître si vous voulez. Ce monsieur présente près de 3000 association entre des produits homéopathiques et des guérisons de symptômes, et des symptômes non fiables. Chaque fois, j'essaie de remettre à jour les exemples que je prends parce qu'on me soupçonne de les choisir particulièrement horribles. Je vous encourage à aller sur le site, il est là, vous pouvez cliquer sur le lien qui est là et choisir les pages que vous voulez. Vous verrez, c'est tout le temps comme ça. Et il y a des trucs vraiment inouïs, quoi. Des trucs vraiment inouïs. Il n'est pas caractéristique des homéopathes, mais c'est l'exemple de quelqu'un qui se sert de symptomatologie non fiable, quoi. Je vais même pas discuter homosexualité, on est d'accord. Homme à liaison illégitime. Quotient intellectuel bas. Bon, pour ceux qui sont en psycho, vous savez que le quotient intellectuel, c'est une notion qui est plutôt ambiguë, hein. Ça avait du sens à l'époque où Binet l'avait élaboré, mais maintenant ça ne l'a plus vraiment. Qu'est-ce qu'il y a encore dans celui-là ? Spasme du rectum après le coït, ça c'est cool. Enfin, c'est pas cool d'avoir des spasmes du rectum après le coït, mais enfin, je sais pas en fait. La gangrène. Alors oui, et je vous en ai mis quelques-uns qui sont un peu variés là. Parce que rectum avec sensation de bout de bois aigu. Hyper précis, hyper précis quoi. Rectum avec sensation de constriction. Avec sensation de lourdeur. Merde, j'ai promis de pas bouger. Pardon, je bouge pas. Pour rester dans le cadre, pardon. Ça, c'est un exemple de dérapage complet, quoi. Mais il aurait raison de dire, quoi, j'ai pas de preuve à ce que je prétends, mais au fond, vous non plus, avec les autres produits, donc pourquoi vous m'emmerdez, quoi. Et c'est là qu'on voit que si on dilue la question de la preuve, on flingue complètement le processus de connaissance. Et on revient là au cours numéro 1 qu'on a fait là-dessus. Hein. Toute la symptomatologie, élaborer tous les remèdes expérimentés depuis Hahnemann, c'est dans un truc qui s'appelle la Materia Medica Pura, c'est le gros bouquin, ça fait environ 20 gros volumes. Là, c'est là que des mauvaises langues commencent à se fâcher un petit peu. Je pense notamment à mon camarade Jean-Jacques Aulas, le médecin lyonnais, là, spécialiste du placebo, qui dit « si on ne garde que les symptômes dont on est une certitude scientifique, il ne reste plus qu'une cinquantaine de pages. » Et il dit « et encore double interligne ». Donc effectivement, c'est plutôt flou les symptômes qui sont proposés aux soins. Le principe de dynamisation, lui, c'est juste mélanger, quoi. Enfin, c'est secouer le tube. On vous dit d'ailleurs des fois vous-même de mélanger le tube. Mais dans les labos, ils le font systématiquement. Et j'ai pu visiter un jour une usine de Boiron à grand fracas parce que, enfin, j'ai eu des ennuis. Le patron de Boiron a eu des ennuis. Les étudiants qui m'ont emmené là-bas ont eu des ennuis. Enfin, c'était une histoire assez rocambolesque. Ça m'a valu d'être convoqué quand même par le doyen de la fac de pharma, quand même. Je me suis fait engueuler, à tort à mon avis, mais je me suis fait engueuler. Et je vous raconterai ça une autre fois autour d'une bière. Mais n'empêche que j'ai dû demander là-bas parce qu'on ne trouvait pas la source, quoi. Et j'aurais demandé c'est quoi la base, la dynamisation, c'est quoi la référence, quoi. Et ils m'ont donné, c'est 240 secousses en 7 secondes 5. Et j'ai demandé pourquoi et ils n'ont pas su me répondre. Et j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Je sais pas pourquoi pas 238, pourquoi pas une autre vibration ou une autre fréquence. J'ai jamais su. Si vous trouvez, moi je suis intéressé. Mais donc il y a une norme chez Boiron. Voilà. Que j'ai été chercher à la sueur de mon front. Principe d'individualisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça dépend de votre type. Vous pouvez être phosphore, vous pouvez être arsenic, vous pouvez être machin. Et donc, à chaque fois, ça va faire varier normalement ce qui va vous être prescrit. Bizarrement, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que les médicaments les plus vendus, comme oscillococcinum en homéopathie, ils sont en automédication. Donc ça veut dire que les gens les prennent pour une gamme bien donnée. Là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez flou comme étagrippo, par exemple, ce qui est assez vaste. Hein. Il y a fièvre, frisson et courbature. Mais je crois que je vous ai déjà dit que étagrippal, ça n'avait pas vraiment de sens en soi. Soit vous avez la grippe, soit vous êtes fiévreux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui fait que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent soigner la grippe comme ça. Et ça peut leur jouer des tours. C'est là qu'on se voit qu'une thérapie alternative sans preuve et qui ne marche pas forcément, ça peut avoir un impact si ça vous détourne d'un soin qui, lui, aurait été plus efficace, notamment en cas de grippe. Et vous savez que vous, à votre âge, on ne meurt pas de la grippe. Quand on est plus vieux, on peut y rester. Quand on est plus jeune aussi, on peut y rester. La grippe, on peut mourir de ça. Les épisodes de grippe laissent pas mal de gens sur le carreau. L'oscillococcinum, c'est le plus vendu. Et bizarrement, tout le monde le prend. Et ça s'applique à tout le monde, sans distinction de type. C'est une contradiction qui est assez étonnante dans le corpus théorique. Et puis, vous avez le rôle des médias dedans, qui vient s'y greffer à ça. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en a 5 assez glauques qui ont été retirés du marché en 99. Et on pourrait se dire, tiens, c'est bon signe, ils en ont retiré, c'est peut-être que ça ne marche pas. En fait, non, c'est pas ça, c'est que vraiment, c'était trop écœurant comme définition. Et donc, ça a été retiré, mais les homéopathes ont râlé. Et donc, il y a des revues, je pense par exemple à cette revue qui est spécifiquement une revue qui défend beaucoup, beaucoup les médecines alternatives, qui s'appelle Alternative Santé L'Impatient. Elle avait fait un article qui m'avait vachement fait marrer parce qu'on voyait toute la scénarisation, quoi. Ils nous disent, on nous a retiré le Medorinum, Psorinum, tout ça. C'est une mise à mort orchestrée de l'homéopathie. Moi, je trouvais ça plutôt bon signe. Je me disais, ah tiens, en fait, ils en retirent. C'est-à-dire peut-être qu'ils ne marchent pas, ceux-là, et on les retire, et on en prend d'autres qui marchent mieux. Et en fait, non, ce n'était pas ça la raison, quoi. Et d'ailleurs, dans la construction journalistique, on rajoutait des photos qui étaient flashantes et tout, et il y avait celle-ci, là, qui était à côté, il y avait un enfant terrorisé. Et ça veut tout dire, quoi. C'est argumenté, quoi, vous voyez. Donc l'enfant est désespéré qu'on lui retire ça. Comme si on enlevait ses outils aux maçons, nous dit le président de la coordination des médecins homéopathes. L'oscillococcinum, c'est un objet qui est tellement vendu, on me posait tellement de questions dessus que j'en avais acheté, c'était il y a 7-8 ans. Donc j'avais pris le mode d'emploi, je l'ai scanné pour vous. Preuve que je l'ai scanné, c'est qu'il y a un bout de tabac là, que je n'ai jamais rescanné depuis. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Et ça, normalement, c'est le job que vous devez faire quand vous prenez un médicament, vous lisez la notice. Il vaut mieux lire la notice, hein, pour savoir ce que vous prenez, quoi. Et donc, on peut agrandir et on se rend compte que c'est de l'autolysa filtré de foie et de cœur d'Anas barbariae dynamisé à la 200e cas. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Je ne comprends pas. Donc prenez un dictionnaire, travail que vous pouvez faire assez facilement, et vous regardez ce que ça signifie. Autolysa, résidu de la destruction des tissus par ses propres enzymes. En gros, le truc qui se dégrade à sec, quoi. Ça pourrit pas, quoi. Mais ça se dégrade. Vous voyez, ça se dégrade, c'est un autolysa. Il se dégrade tout seul. Autolysa. L'Anas barbariae, ceux qui habitent près du lac d'Annecy, ils connaissent, c'est le canard qui portait toutes les puces qui a fait tant polémique il y a quelques années, c'est lui, le canard. Pourquoi ce canard? Alors, je vous le dis, mais moi j'y croyais tellement, c'est tellement gros que j'y croyais pas, et je me casse les dents depuis 10 ans là-dessus, donc si vous arrivez à trouver une autre source, dites-le moi. Tout est parti d'un monsieur qui s'appelle Joseph Roy, qui dit avoir observé un microbe qu'il a appelé l'oscillocoque en 1925 et que plus personne n'a jamais revu depuis. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a vu quelque chose, il a décrété qu'il y avait ça, et les industries homéopathiques se sont emparées du produit. Personne ne s'est jamais fatigué à rechercher l'oscillocoque qui vraisemblablement lui aussi devrait être mis au grenier des notions qui sont inutiles, quoi. Dynamiser, on l'a vu, il n'y a pas de fondement scientifique connu, c'est pas en secouant un mélange que vous réexprimez quelque chose qui n'existe plus dedans, va se refaire. On ne connaît pas ça en chimie, ça n'existe pas en chimie. Peut-être ça existera un jour, mais il faut des preuves dans ce cas-là. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Et 200e cas, c'est peut-être pas très clair, 200e cas, c'est une dilution qui n'est pas anemanienne. C'est pas celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une qu'on doit à un médecin russe des années 1820, 1830, 1840, Alors je vous raconte vite fait, la Korsakovienne. Vous prenez une goutte du produit actif de départ, le poison, vous le mettez dans un pot, et après vous videz le pot, le solvant dedans, vous videz le pot, et là vous recomplétez avec le solvant ce qui reste sur les bords. Puis vous revidez le pot, ça fait 2 cas, puis vous re-remplissez, puis vous videz le pot, 3 cas. Si vous avez fait un peu de chimie, on se dit, ah ouais, étonnant quand même. Surtout que selon l'affinité chimique qu'a la molécule en question, vis-à-vis de son récipient, ben en fait, 200 cas, si ça se trouve, ça contient plus de choses que 3 ACH, quoi. Mais ça se trouve, ça contient plus rien du tout, quoi. En fait, c'est une méthode qui permet même pas de savoir ce qui reste dedans, quoi. Voilà où on en est sur cette question d'oscillococcinum. Je vous ai fait une diapo, parce que probablement on n'aura pas le temps d'en parler, mais sur les différences fondamentales qu'il y a entre la vaccination, qui naissait à la même époque que Hahnemann, et qui a probablement inspiré Hahnemann, hein, et l'homéopathie. Je vous ai mis quelques points ici, mais je reviendrai peut-être sur cette diapo si on a un peu de temps, mais je sais que le temps file, et donc j'aurai peut-être pas le temps de creuser ça. Mais il y a des vraies immenses différences. Ça n'a pas grand-chose à voir, à proprement parler. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour ceux qui disent qu'il faudrait remplacer certains vaccins par des méthodes homéopathiques. Ceci dit, je défends pas forcément tous les vaccins, je défends encore moins les politiques industrielles que certaines industries proposent vis-à-vis des vaccins, notamment de grouper des vaccins dans des pentas ou tétravalents. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces questions-là, mais n'empêche que proposer à des vaccins qui ont une efficacité démontrée, limitée, mais démontrée, proposée par, remplacée par l'oscillococcinum, dont l'efficacité, malheureusement, n'a jamais été démontrée, c'est un risque qu'un médecin ne doit pas faire prendre aux gens. Et normalement, un médecin n'est pas censé encourager à ça. L'article 39 de son code de déontologie le lui interdit. Un médecin est censé vous proposer le meilleur le meilleur choix thérapeutique connu au moment où il vous prescrit les choses, quoi. C'est dans la règle, quoi. Le pharmacien aussi souscrit à un code de déontologie du même genre.